VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du mercredi 18 avril 2018. En direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Burkina Faso, un groupe djihadiste enlève un enseignant dans le nord du pays.
Au Tchad, la télévision nationale a annoncé que 3 soldats tchadiens ont été tués dimanche dans un accrochage avec des éléments de Boko Haram.
En Gambie, manifestation hier à Banjul des familles de victimes du régime de l'ex-président Yahya Jammeh.
En Tanzanie, des inondations ont fait au moins 14 morts à Dar es Salaam.
En Syrie, confusion sur l'arrivée hier à Douma des experts de la commission d'enquête sur l'utilisation d'armes chimiques dans cette ville.
Le président américain Donald Trump a signalé des discussions à très haut niveau entre les États-Unis et le leader nord-coréen Kim Jong-un.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Au Burkina Faso, enlèvement d'un maître d'école de Bourreau dans la commune septentrionale de Nassoubou. Selon l'AFP qui cite des sources sécuritaires, ce rapt perpétré jeudi par des groupes armés a été revendiqué par le groupe État islamique dans le Grand Sahara. Il reproche à l'enseignant de parler français aux élèves, ajoutant « tous ceux qui enseignent en français seront combattus ». Le groupe, basé à la frontière entre le Mali et le Burkina Faso, a revendiqué mardi auprès de l'AFP non seulement cet enlèvement, mais aussi l'assassinat dimanche du maire Hamid Koundaba de Koutougou, accusé de collaborer avec le gouvernement burkinabé pour, je cite, « les croiser ». Le président burkinabé, Marc-Christian Caboré, avait condamné dans un tweet cet assassinat lâche.
Au Tchad, la télévision nationale a annoncé hier que 3 soldats tchadiens ont été tués dimanche lors d'un accrochage avec des éléments du groupe djihadiste nigérian Boko Haram. Elle n'a pas précisé où a eu lieu l'accrochage, mais une source militaire a dit à l'AFP que 3 soldats, sans précision sur leur nationalité, ont été tués dimanche dans des combats entre Boko Haram et les soldats de la force multinationale mixte dans la localité de Hargé, dans le district d'Abadam au Nigeria, à la frontière avec le Tchad.
Au Niger, reprise des cours pour les 23 000 étudiants de l'université de Niamey. Après un mois de grève, les étudiants avaient déclenché le mouvement pour exiger la réhabilitation de 5 étudiants exclus en mars de l'université. Le point avec Marie Benson.
Sita Diabiri, secrétaire générale de l'Union des étudiants nigériens de l'Université de Niamey, affirme que les cours ont repris pour permettre au gouvernement d'entreprendre des négociations. Cela ne veut pas dire que les cours ont repris définitivement, car nous n'avons pas encore obtenu la satisfaction à nos principales revendications, a-t-il ajouté, précisant que les forces de l'ordre déployées sur le campus ont été retirées. Le mois dernier, 5 étudiants avaient été exclus de l'université de Niamey après avoir été accusés de violence et d'agression envers un de leurs professeurs, qualifiant l'incident d'altercation mineure et ses exclusions injustes, disproportionnées, illégales et arbitraires. Leurs camarades avaient donc entamé une grève. Ils souhaitaient aussi l'apurement de 6 mois d'arriérés de bourse. La semaine passée, le Parlement nigérien a annoncé qu'une enquête parlementaire allait être ouverte afin d'analyser la situation de l'université de Niamey, qui est la plus importante du Niger.
En Gambie, des familles de victimes du régime de l'ex-président Yahya Jammeh ont manifesté hier à Banjul, plus d'un an après son départ du pays au terme de 22 ans de pouvoir. Les protestataires réclament aux nouvelles autorités la vérité sur leur mort et disparu. Morgane Guériec.
Nous voulons la justice maintenant, ont scandé une trentaine de manifestants dans la capitale gambienne lors de cette marche pacifique, rapporte l'AFP. L'an dernier, les autorités avaient annoncé que des dépouilles de Gambiens tués en luttant pour la fin du régime de Jammeh avaient été exhumées. Une année plus tard, leurs familles et amis n'ont pas d'informations sur leur sort, a déclaré Zainab Low, une sœur d'un membre de la garde présidentielle disparu en 2006. Le temps d'attente est terminé. La vérité doit être dite. Nous avons besoin de justice, a-t-elle ajouté, au nom des familles des victimes de M. Jammeh, accusées de disparition forcée et d'exécution extrajudiciaire par des opposants et défenseurs des droits de l'homme.
Drame en Tanzanie où des inondations à Dar es Salaam ont causé la mort de 14 personnes au moins. Des pluies torrentielles se déversent sur le pays depuis le week-end. Des détails avec Abdourahmane Dia.
Le commandant régional de la police de la capitale économique tanzanienne, Lazaro Mambosasa, a donné devant la presse le dernier bilan des inondations. Selon les médias locaux, les fortes pluies ont par ailleurs fait au moins une dizaine de morts dans d'autres provinces, notamment dans quatre régions du nord, dont Arusha. Lundi, le gouverneur de la province de Dar es Salaam, Paul Makonda, a ordonné la fermeture des écoles primaires pour 2 jours et appelé les populations vivant dans des zones jugées dangereuses à les quitter immédiatement. Des secouristes se mobilisaient pour sauver des personnes bloquées dans les débris de leurs habitations. Les autorités tanzaniennes ont suspendu les visites touristiques dans le parc de Manyara, dans le nord du pays, à la suite de la destruction des routes qui y mènent. En 2015, plus de 50 personnes avaient été tuées dans des inondations ayant frappé le pays. Selon un rapport de l'organisation Nature Climate Change, la Tanzanie perd 2 milliards de dollars chaque année à cause des inondations.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Syrie, confusion hier sur l'arrivée à Douma de l'équipe d'experts de l'Organisation internationale pour l'interdiction des armes chimiques pour déterminer s'il y a eu attaque chimique dans cette ville il y a une dizaine de jours. La télévision d'État syrienne et les casques blancs ont annoncé séparément l'arrivée de l'équipe à Douma. Mais la porte-parole du département d'État américain, Heather Nauert, a contredit dans l'après-midi ces informations. Le représentant permanent de la Syrie à l'ONU a dit que l'équipe devrait commencer son travail aujourd'hui. Les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France ont attaqué aux missiles des sites militaires syriens samedi en représailles à une attaque chimique présumée le 7 avril à Douma.
Le président américain Donald Trump a déclaré qu'il y a eu des discussions à un très haut niveau entre les États-Unis et le leader nord-coréen Kim Jong-un. Il a fait cette révélation à l'occasion de sa rencontre hier en Floride avec Shinzo Abe, le premier ministre japonais. Monsieur Trump doit rencontrer dans quelques semaines Kim Jong-un pour un sommet historique. Précision de Jean-Roger Bion.
Le président américain a fait preuve d'un certain optimisme sur les préparatifs de ce sommet. Il a parlé de 5 lieux possibles pour ce tête-à-tête historique qui aura lieu probablement début juin si tout se passe bien selon lui. D'après le Washington Post, le directeur de la CIA et futur secrétaire d'État, Mike Pompeo, a effectué une visite secrète à Pyongyang au cours de laquelle il a rencontré Kim Jong-un lors du week-end de Pâques. La Maison-Blanche comme la CIA se sont refusés à tout commentaire. La Maison-Blanche a par ailleurs précisé que M. Trump n'avait pas directement été en contact avec le leader nord-coréen. M. Trump a aussi affirmé être résolument favorable aux discussions entre les deux Corées sur la nature de leurs liens à 10 jours d'un sommet entre Kim Jong-un et le président sud-coréen Moon Jae-in. Ils ont ma bénédiction pour discuter de la fin de la guerre. Les gens ne réalisent pas que la guerre de Corée n'est pas terminée, a-t-il expliqué. M. Trump semble confirmer ainsi la possibilité d'un éventuel traité de paix pour remplacer l'armistice qui a mis fin aux hostilités sur la péninsule à l'issue de la guerre 1950-1953. Donald Trump et Shinzo Abe devraient s'exprimer lors d'une conférence de presse commune mercredi soir à l'issue d'une deuxième journée de discussion qui devrait débuter par une partie de golf.
En Californie, un Africain-Américain âgé de 26 ans a été tué d'une vingtaine de balles par des policiers sur le parking d'un supermarché Walmart le 5 avril dernier, ont indiqué les autorités et son avocat qui entend porter plainte cette semaine contre la police. Dante Yarber n'était pas armé. 2 des 4 personnes qui se trouvaient dans la voiture ont été blessées, a indiqué mardi à l'AFP l'avocat. La police soutient que la victime avait refusé d'obéir aux ordres de ses agents et lancé son véhicule en direction des policiers.
Barbara Bush, femme de l'ancien président américain H.W. Bush et mère de l'ancien président George W. Bush, est décédée mardi, selon un communiqué diffusé par le porte-parole de son mari. Elle avait 92 ans. Dimanche, elle avait dit à sa famille qu'elle avait décidé d'arrêter son traitement médical après une récente série d'hospitalisations. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Eric Manirakiza.
Pour relancer son économie, le Zimbabwe envisage de vendre des actions de 35 entreprises publiques. Harare espère réduire les dépenses et sauver une économie plombée par des dettes et des années de mauvaise gestion. Le gouvernement veut aussi obliger les compagnies minières locales à lister la majorité de leurs actions sur le marché boursier local. La Chine et l'Inde ont accordé au Mozambique une nouvelle période de grâce pour rembourser sa dette. C'est le résultat des pourparlers engagés depuis l'année dernière. Ces dettes concernent plus de 2 milliards de dollars. L'Union européenne a saisi l'Organisation mondiale du commerce OMC dans le dossier des droits de douane sur les importations américaines d'acier et d'aluminium. Bruxelles a décidé de se tourner vers l'OMC pour préserver ses droits. La Chine a saisi dans cette affaire l'organe de règlement des différends, une autre instance de l'OMC. La Chine va lever d'ici à 5 ans des restrictions qui empêchent les constructeurs automobiles étrangers de contrôler leurs filiales locales. Cet assouplissement tant attendu a été étendu à la construction navale et aéronautique. D'après la loi actuelle, aucun constructeur automobile étranger ne peut posséder plus de 50% des parts et doit obligatoirement créer une co-entreprise avec un fabricant chinois.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Tour de cadrage, retour de la Coupe CAF.
Et la belle qualification en Algérie de l'ASEC Mimosa qui a fait match nul 0-0 sur la pelouse de Belouizdad. Suffisant après la victoire 1-0 à l'aller à Abidjan. Qualification donc pour l'ASEC. Qualification également des Congolais de l'AS Vita Club, le club de Kinshasa qui est allé s'imposer facilement à Pointe-Noire 5-1 face à La Mancha. L'USM Alger n'a pas fait de détails. À domicile, victoire 4-0 et qualification devant le Plateau United du Nigeria. Enfin, c'est la désillusion pour les Gabonais du CF Mounana, battus et éliminés 2-1 en Égypte par Al Masry. À suivre ce mercredi au Mozambique, le rayon sport du Rwanda qui voyage avec 3 buts d'avance avant d'affronter le Costa do Sol. Enimba du Nigeria qui affronte Wits d'Afrique du Sud. La Renaissance de Berkane qui accueille à domicile Génération Foot du Sénégal qui l'avait emporté 3-1 à l'aller. Le Kara de Brazzaville qui devra battre Saint-Georges après la défaite à l'aller en Éthiopie 1-0. Songo du Mozambique voyage avec un avantage de 2 buts après avoir battu 3-1 à l'aller le club soudanais d'Al-Hilal Obied. Le WAC de Williamsville, le club ivoirien en déplacement en Guinée équatoriale pour affronter le Deportivo Niéfang. À l'aller, le WAC s'était imposé 2-0. Même avantage de 2 buts pour les Young Africans de Tanzanie avant d'aller en Éthiopie à Welaita Jitcha. Et puis le Zanaco de Zambie devra remonter 2 buts en voyageant sur la pelouse du Raja à Casablanca. Très mince espoir pour les Fossa Juniors de Madagascar après leur défaite 6-1 au Ghana face à Adwana Stars. Aqua United du Nigeria qui devra remonter 2 buts en accueillant Al Hilal du Soudan. Supersport United qui devra remonter 1 but après la défaite au Kenya sur la pelouse de Gor Maya. Enfin à Bamako, le Joliba qui accueille le MFM du Nigeria. Les Bamakois qui l'avaient emporté 1-0 à l'aller.
Bertrand Marchand jette l'éponge avec le club africain.
Oui, l'entraîneur français de 64 ans s'est séparé à l'amiable du club africain, ce club de première division tunisienne, 5 mois seulement après son recrutement. Aucun détail n'a été donné sur les raisons de cette séparation. Le club algérois de l'USM a indiqué être intéressé par le technicien français. On rappelle que Bertrand Marchand avait déjà entraîné le club africain en 2006. Il avait été recruté en décembre dernier pour une période de 6 mois.
Le Barça accroché en Liga.
Avec un 11 expérimental et sans Lionel Messi au coup d'envoi, Barcelone n'a ramené qu'un petit point de son déplacement au Celta Vigo. Match nul, 2 buts partout. Le premier but en Liga également d'Ousmane Dembélé. Ces 2 points perdus ne devraient pas empêcher les Barcelonais devant au classement d'être sacrés champions d'Espagne.
L'Inter en forme hier soir.
Avant la suite de la 33e journée du Calcio ce soir, l'Inter Milan est 3e après sa large victoire 4-0 contre Cagliari. L'Inter qui compte 2 points d'avance sur la Roma et la Lazio. Allez Idrissa, on continue les playoffs NBA ici aux États-Unis. Les résultats de la nuit.
Conférence Est, Toronto bat Washington 130-119 et mène la série 2-0. Boston mène de son côté Milwaukee 2-0 en ayant le dessus hier soir 120-106. Conférence Ouest, la Nouvelle-Orléans mène également Portland 2-0 après avoir remporté leur second match de la série 111-102.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sidoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, 200 magistrats ont été révoqués par ordonnance présidentielle. Il s'agit de magistrats faussaires relevés de leurs fonctions au terme d'une enquête menée par les autorités judiciaires congolaises dans le but d'améliorer l'image de la justice. Si la décision est saluée par les avocats et magistrats du pays, elle l'est moins par la population qui veut plus d'action pour une justice de qualité. Précision de Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Il s'agit des magistrats des sièges et du ministère public. Ils étaient épinglés comme frauduleux par les conclusions du rapport d'une commission mixte gouvernement, conseil supérieur de la magistrature et délégation syndicale. Satisfait de cette décision, Alexis Tambwe Mwamba, ministre d'État à la justice, précise qu'il ne s'agit que d'une première étape dans le processus d'assainissement de la magistrature.
Je suis, en tant que ministre de la justice, très heureux de voir que son Excellence, Monsieur le Président de la République, à sanctionner les travaux qui ont été faits par les magistrats eux-mêmes et tous ceux qui avaient participé aux états généraux de la justice, la commission que j'ai souhaitée, qui a été mise en place par le Conseil supérieur de la magistrature, pour que, dans une première étape, nous puissions assainir le corps.
Dans la corporation, on salue également cette série de révocations. Le bâtonnier national Matadi Wamba, premier des avocats congolais, rappelle que ce travail devrait se faire chaque année pour améliorer davantage l'image de la magistrature et donc de la justice de la République démocratique du Congo.
C'est le travail que doit faire toutes les années le Conseil supérieur de la magistrature. Je considère que c'est dans le cadre normal, l'autogestion, l'autodiscipline des magistrats. Si ça vient des magistrats, puisque c'est le cas, c'est donc tout à fait normal. Si ces contrôles se poursuivent d'année en année, périodiquement, il y aura un impact positif, il y aura un résultat positif s'agissant de la discipline au sein de la magistrature. La peur du gendarme est le commencement de la sagesse.
Cette décision résulte d'une enquête consécutive à une résolution de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature lors de sa 5e session extraordinaire d'octobre 2017. 3000 magistrats congolais ont subi cette enquête administrative qui a abouti donc à la révocation de 200 d'entre eux. Cela suffit-il à renforcer la qualité de la justice congolaise accusée souvent de manipuler et de corrompu? Des Quinois interrogés par VOA Afrique ne sont pas unanimes sur la question.
Pour moi, je fustige d'abord cette révocation parce que nous sommes dans un pays où les taux de chômage est très avancé.
Le plus grand problème, ce n'est pas seulement qu'ils soient révoqués. Qu'est-ce qu'on a fait d'eux après révocation? Quelles sont les sanctions? Parce que imaginez, vous êtes dans une république avec 200 magistrats où, au bout d'un certain temps, ils ont eu à lire la loi, à donner certaines sanctions, à décider au sujet de la loi alors qu'ils n'étaient pas qualifiés pour cela. Sûrement, il y a eu beaucoup d'erreurs. Je pense bien que c'est un problème qui devait être réparé en amont et en aval.
Ce genre de décision est pour renforcer la qualité de la justice et la qualité sur le pouvoir judiciaire aussi. Et l'État aussi doit fournir un effort pour recruter le nombre de perdants de magistrats dont qui sont partis.
Ici, on se contente de dire qu'il y a 200 magistrats qu'on a révoqués et puis c'est tout. Moi, je pense que c'est très grave. Posez-vous la question des gens qui se retrouvent au niveau des prisons parce que ces magistrats, dits des faux magistrats, ils ont eu à donner des sentences par rapport à leurs problèmes. Au lieu de saluer ces démarches, on devait plutôt se poser des questions. Qu'est-ce qui va arriver effectivement à ces 200 magistrats? Y aura-t-il des sanctions ou pas? S'il n'y aura pas des sanctions, en tout cas, ça ne vaut pas la peine.
Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
VOA Afrique, 24h/24, à Kisangani, en RDC, sur 97.7 FM.
Au Niger, plus de 5 millions d'enfants ont été vaccinés début mars contre la poliomyélite. C'est ce qu'indiquent les statistiques du Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. La campagne de vaccination s'est déroulée dans les 72 districts sanitaires du pays. La polio touche en majorité les enfants. John Lyndon a joint le docteur Idi Ilyasu, ministre de la Santé du Niger.
Le lancement de cette campagne rentre dans ce que nous appelons les AVS, activités de vaccination supplémentaire, et qui consiste à protéger tous les enfants contre cette terrible maladie. D'abord, il faut que vous le sachiez, le Niger a été certifié en 2017 indemne de la circulation de poliovirus sauvage. Ça veut dire que le poliovirus sauvage n'est plus en circulation au Niger, mais par contre, certains pays frontaliers du Niger, ce virus circule de part et d'autre quand vous prenez vers le Nigeria. Et jusque-là, vous avez des cas de poliovirus sauvage qui circulent. Les autres pays également frontaliers du Niger, le poliovirus sauvage circule. Il faut renforcer la protection, il faut renforcer la vaccination. Et c'est dans ce cadre que nous avons lancé cette énième campagne de lutte contre la poliomyélite au Niger.
Et comment avez-vous réussi à atteindre les plus de 5 millions d'enfants qui ont été vaccinés?
Nous faisons la stratégie porte à porte, non seulement en mettant les moyens, que ce soit l'État, que ce soit les partenaires, en recrutant des équipes, en formant ces équipes et en mettant vraiment les moyens nécessaires qu'il faut pour atteindre la cible. Et je vous assure, cette dernière campagne a été un succès. Vous avez des régions où on était parti au-delà de 100%. Quand vous prenez les régions qui comportent des réfugiés, qui donc comportent des enfants hors zone, ces hors zones-là ont été touchés parce qu'on a pris en compte tous les enfants, que ce soit des enfants nigériens, que ce soit des enfants réfugiés, les enfants qui viennent des autres pays, et on les a pris en compte. Aujourd'hui, c'est ce qui nous a permis de vacciner au moins 5 millions d'enfants nigériens et 5 millions d'enfants, je dirais, et Nigériens entre guillemets, parce qu'il y a d'autres pays qui viennent se réfugier au Niger et ces parents-là, ces mères-là, elles viennent avec des enfants.
Malgré ces campagnes et les effets de la poliomyélite, beaucoup de parents sont encore sceptiques quant à l'efficacité de la vaccination. Quel message avez-vous pour eux?
Non, en réalité, on ne peut pas douter de l'efficacité de ce vaccin parce que c'est un vaccin qui a été testé, c'est un vaccin homologué.
Eh bien, c'était le docteur Idu Ulyasu, ministre de la Santé du Niger.
Cette semaine, dans Washington Forum, gros plan sur le paludisme. Cette maladie est en progression avec 5 millions de cas supplémentaires en 2016. Comment expliquer cette augmentation? Une conférence est ouverte dimanche au Sénégal pour faire le point sur la lutte contre le paludisme. Quelles sont les politiques mises en œuvre? Où en sont les recherches scientifiques? Le vaccin en cours d'évaluation sera-t-il à la hauteur des espoirs? On en discute dans Washington Forum. Morgane Guiriac avec vous. Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique.
En Syrie, l'UNICEF signale que la guerre qui dure depuis 7 ans, que les enfants sont les principales victimes de cette guerre. Certains petits Syriens n'ont connu autre chose que ce conflit. Ceux qui en ont échappé en subissent les conséquences. Des experts sont d'avis que les effets de cette guerre prolongée sont dévastateurs pour le développement physique, mental et éducatif de toute une génération de Syriens. Le sort de ces enfants syriens a été l'objet d'un forum hier à Washington. Reportage de Zlatika Hawk, relaté par Jacques Aristide.
Environ 2 millions d'enfants en Syrie ne vont pas à l'école et près d'un million de ceux qui ont fui le pays ne reçoivent pas non plus une éducation appropriée. La moitié des enfants toujours à l'école en Syrie ne sont pas en sécurité. Des travailleurs humanitaires ont enregistré les témoignages de certains de ces enfants.
Aboud, 12 ans, nous a dit « Je me sens toujours en colère, tout le temps. » Riyad, 8 ans, d'Alep, nous a dit « J'ai peur d'aller à l'école parce qu'un avion va nous bombarder. » Alia, 12 ans, nous a dit « Je serais confus si je n'entendais pas de frappe aérienne. »
Amy Richmond a travaillé avec des enfants syriens réfugiés en Jordanie, au Liban et en Turquie et des déplacés en Syrie.
Save the Children estime qu'au moment où on se parle, 250 enfants de plus fuient avec leur famille et le bilan psychologique de cette expérience et de cette violence, aggravée par la privation continue qui est causée par le déplacement, crée une situation que nous appelons le stress toxique.
Pour les experts,
ces traumatismes empêchent le développement physique et mental chez l'enfant. Gravement traumatisé, l'enfant ne peut pas apprendre. Presque tous les enfants syriens sont touchés par cette guerre d'une manière ou d'une autre. Ceux qui ont survécu sont susceptibles d'avoir au moins un parent qui a été tué. Les enfants dans les camps de réfugiés sont souvent victimes d'humiliations ou d'abus. Le docteur Mohamed Khaled travaille pour l'ONG Syrian American Medical Society.
La question que l'on se pose est la suivante. Quelle est l'efficacité et l'impact de l'action entreprise par l'enseignant et le thérapeute dans des cas où les abus sont continuels? Il s'agit de toutes sortes d'abus sévères. Et c'est ce qui se passe effectivement.
Le département d'État américain travaille avec des communautés locales du nord-est du pays pour aider à la réinsertion des enfants d'âge scolaire. À travers l'art, la danse et le jeu, ils apprennent à interagir les uns avec les autres. Catherine Boumaroun de ce département.
Les enfants ne peuvent pas se promener dans les rues ou n'ont pas de structure formelle pour s'asseoir dans une salle de classe pendant 5, 6, 7, 8 heures. Il faut traiter les problèmes mentaux, les traumatismes, avant de les emmener à apprendre l'alphabet et à compter.
Pour des experts, il est temps d'agir afin d'éviter qu'il y ait une génération perdue d'enfants syriens.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Il y a 10 ans, jour pour jour, disparaissait Aimé Césaire. Politicien, poète et dramaturge, le Martiniquais était avec Léopold Sédar Senghor et Léon Gontran Damas, l'un des fondateurs du mouvement de la négritude. Cet anticolonialiste Césaire dira au milieu des années 30 « Je suis de la race de ceux qu'on opprime ». Au micro d'Arzuma Compaoré, le docteur Jean Ouédraogo, chef du département des études francophones à l'université Holy Cross dans le Massachusetts, nous en dit plus.
Aimé Césaire, c'est une personnalité connue du monde littéraire. C'est une personnalité à la fois politique, littéraire. C'est une figure de combattant, c'est une figure donc de résistant. C'est quelqu'un qui porte aussi avec d'autres personnalités telles Senghor ou Léon Gontran Damas, la paternité donc de ce mouvement si important, si fondateur également qu'est la négritude. Aimé Césaire définira par une série de négations qui retournent un peu contre l'Occident, ces préjugés qu'il faudrait dire racistes donc à l'égard du noir et qui retournent par sa verbe poétique. Ces attributs qui sont censés déshumaniser l'homme noir, qui est donc transformé en arme de combat, comme l'intitulé également d'un autre recueil de poésie qui s'appelle donc Les armes miraculeuses. Donc c'est cette personnalité-là qui est toujours présente, même dans son absence physique. Il est présent dans les écrits, il est présent dans les chansons. Il n'y a qu'à voir des Gaël Faye, Kassav, parlant donc de génération consciente, ainsi de suite.
Justement, quel est l'héritage aujourd'hui d'Aimé Césaire, surtout pour l'Afrique?
Pour l'Afrique et pour peut-être ce qu'il faudrait appeler la francophonie, Césaire reste une figure marquante, en ce sens qu'on peut ne pas adhérer à la vision littéraire, à la vision esthétique donc de la négritude. On peut s'en départir, on peut même s'en offusquer, mais c'est une base à partir de laquelle d'autres expressions littéraires, artistiques, que ce soit les tenants de la créolité, de l'antillanité, cette négritude-là reste fondamentale.
Est-ce qu'il y a un nouveau Césaire?
Est-ce qu'il y a un nouveau Césaire? Difficile à dire, il faut dire qu'il y a des aspirants Césaire, des gens nourris de la poésie de Césaire, qui ont leurs propres identités. Je pense que ce que l'homme nous laisse, c'est un terreau à partir duquel on peut pousser d'autres formulations, non seulement des questions identitaires, mais également d'autres formulations peuvent se départir de cette vision originale ou originelle et donc se créer un chemin, une voie, une nouvelle voie qui porte aussi. Et on peut peut-être même être Aimé Césaire sans être fondamentalement noir.
Le docteur Jean Ouédraogo, chef du département des études francophones à l'université Holy Cross dans le Massachusetts. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jonah Cummings. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.